Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Mardi prochain, 12 mai, au Lion d'Or aura lieu le Party Pyjama littéraire et cette fois au profit de la Fondation Milio qui est là, qui a lieu en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants qui vivent soit avec une déficience motrice ou encore un trouble du langage et qui sont suivis au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. En deuxième partie d'émission, Catherine Sivigny, elle qui est directrice générale de la Fondation, sera là pour nous parler davantage de l'événement et aussi de la mission poursuivie par la Fondation Milio. Et puis d'abord, vous dire que la surdité, c'est un handicap. Ça semble évident comme ça, mais peut-être pas tant. C'est un handicap qui peut passer inaperçu. Et quand elle survient dans une famille, ça peut être plutôt déstabilisant. Les parents se posent mille et une questions. Et en ce moment de la surdité, la Fondation des sourds du Québec et l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs lançaient, pas plus tard que tout à l'heure, un guide pratique destiné aux parents qui a pour titre « Votre enfant a une surdité, vous n'êtes pas seul ». Et pour nous en parler davantage, Edith Keys, directrice générale de l'AQEPA, accompagnée de Charles Gaucher, lui qui est enseignant à l'École de travail social de l'Université de Moncton. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci de nous faire part de cette, cette grande primeur parce que ce guide est tout nouveau, tout chaud, lancé pas plus tard, bon, à 11 heures aujourd'hui. On ne pouvait pas avoir plus récent que ça. Ça s'est bien passé, dites Keys, le lancement?
Oh, ça s'est magnifiquement passé. Surtout qu'on avait le bonheur d'avoir avec nous René Simard et sa conjointe. Marie-Josée Taillefer, qui nous ont fait un témoignage des plus émouvants. En fait, tout le monde a eu larmes à l'œil un petit peu parce qu'ils nous ont fait part, au fond, comment eux ont vécu l'annonce du diagnostic de la surdité chez leur premier enfant. Alors oui, c'était vraiment touchant et ça nous a encore plus, convaincus de l'importance, justement, qu'un parent, lorsqu'il apprend la surdité de son enfant, doit être aidé. Et le guide en question que Charles Gaucher a rédigé avec un autre auteur est parfait dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais tout s'est bien passé.
D'ailleurs, René Simard et sa conjointe, Marie-Josée Taillefer, signent l'ouverture de ce guide-là. Donc, déjà font part de ce témoignage. Charles Gaucher, bon, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais vous êtes quand même l'auteur principal de ce guide. Ça vient d'où la genèse? D'où vient l'importance d'écrire une telle publication?
Un des éléments qu'on remarque avec les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est sourd, c'est qu'il y a un désarroi, un choc qui est souvent causé par le fait qu'on ne connaît pas ce qui nous arrive. On ne connaît personne qui est dans notre entourage, qui vit avec une surdité parce que, bon, c'est pas une déficience qui est nécessairement transmise génétiquement, même s'il y a des cas, il peut y avoir des cas génétiques. Donc, un peu... un parent qui est sous le choc, qui se demande quoi faire parce qu'il n'y a aucun modèle alentour de lui, on voulait, à travers le guide, lui donner un outil auquel il peut se référer pour briser l'isolement qui risque constamment de peser sur lui.
La surdité, est-ce que ça touche beaucoup d'enfants au Québec?
Eh bien, selon les statistiques, là, c'est à peu près de 4 à 6 enfants par tranche de 1000 au Québec, ce qui est quand même énorme, ce qui fait que ça fait à peu près au-delà de 400 enfants. C'est beaucoup, là.
Oui.
Quand on y pense, c'est beaucoup.
Et bien sûr, quand ça touche un enfant, ça touche toute la famille. C'est quoi les grands changements qui s'effectuent au sein d'une famille qui vient de recevoir un diagnostic de surdité chez l'enfant?
Moi, je dirais, pour avoir parlé souvent avec des parents, lorsqu'il survient, c'est ça, le diagnostic, c'est sûr qu'ils ne s'y attendaient pas. Il faut qu'ils appréhendent qu'ils apprivoisent, pardon, cette nouvelle réalité-là. Il y a des parents qui voient l'enfant aussi parfois avec d'autres yeux parce qu'ils se demandent, bon, ben finalement, c'est qui cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il pense? Comment je vais pouvoir l'aider? Comment je vais pouvoir communiquer avec lui? Le parent se pose énormément de questions. Peut-être est-ce que c'est de ma faute? S'il a une surdité, pourquoi, etc.? Alors, ils ont des gros, gros défis, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas rester seul.
Oui.
C'est de s'entourer, de pouvoir parler, parce que l'isolement, lorsqu'on apprend une nouvelle comme ça, c'est vraiment dangereux. Donc, c'est pour ça aussi, encore une fois, le guide, c'est de leur donner un outil qu'ils vont pouvoir, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que la KEPA, en fait, c'est là, c'est ce qu'on dit toujours. Vous n'êtes pas seul, on est là pour vous aider. La KEPA, c'est une association de parents qui vivent avec une surdité.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça.
Et je tiens à le mentionner, le guide, en ce sens, est extrêmement bien fait. Il est concret, il est accessible et il véhicule de l'information qui est assez simple parce que quand survient un diagnostic, et on le disait tout à l'heure, la famille est déstabilisée. On se pose mille et une questions. On se demande à qui la faute. Pourtant, mon enfant, il semble être en pleine santé. La surdité, c'est un handicap invisible. Et je veux revenir quand même à l'importance du diagnostic. Est-ce que c'est simple poser un diagnostic de surdité?
Bien, écoutez, Charles pourra vous répondre là, si je mets des choses, là, mais c'est simple. C'est que l'affaire, c'est que, justement, vous l'avez dit, la surdité, c'est un handicap invisible. Alors, déjà, en partant à la naissance, c'est possible aujourd'hui de diagnostiquer. D'ailleurs, le ministère de la Santé a commencé à implanter dans différents hôpitaux, ben, particulièrement à Montréal, dans l'Anaudière, puis un peu sur Rive-Sud, là, mais le dépistage de la surdité. Bon, comment on fait? Ce sont des tests auto-acoustiques. Assez souvent, ça se fait sans douleur pour l'enfant. Ça dure environ, quoi, 20 minutes à peu près. C'est fait habituellement le lendemain de la naissance de l'enfant.
Et
c'est
OK.
Oui, c'est fait très rapidement. Et,
chez tous les enfants québécois qui viennent au
non,
monde.
Ah, malheureusement. Voilà. Okay. En fait, c'est quelque chose d'un dossier que la KEPA réclame à corps et à cri depuis très longtemps parce que le dépistage, on peut parler de dépistage précoce, c'est-à-dire qu'au fond, si on soupçonne qu'un enfant peut avoir un problème de difficulté de surdité, on va le passer les tests. S'il y en a dans la famille, s'il y a eu une maladie qui pourrait faire qu'il y aurait eu une possibilité de aussi. Mais le dépistage universel précoce, je dirais, de la surdité, c'est vraiment que chaque enfant qui naît au Québec soit dépisté dès la naissance. Parce que la différence, elle est énorme, hein, pour l'enfant, parce que s'il est dépisté tout de suite, bon, on va pouvoir l'aider. Il va pouvoir être... ça va aider beaucoup au niveau de la communication entre lui et ses parents. Mon Dieu, Charles, tu peux en dire encore plus là-dessus? Là?
Bien, surtout sur le plan de l'accompagnement du parent. Donc, plus on dépiste de façon précoce, plus les parents ont besoin de soutien rapidement parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se préparer. Un parent qui suspecte que son enfant a des incapacités auditives pendant 6, 7, 8 mois, bien, tranquillement, même si c'est de façon inconsciente, il se fait à l'idée. Quand on dépiste, par exemple, à la naissance, il n'y a pas de préparation. C'est vraiment le choc. Mm-hmm. Donc, c'est là le rationnel du guide. C'est là l'idée d'avoir tout de suite en main pour ces parents-là quelque chose qui, à la fois, leur donne accès à un vécu, une expérience subjective de la surdité. Donc, d'autres parents, c'est pour ça qu'on voulait avoir des témoignages dans ce guide-là. Donc, un vécu qui parle aux parents, qui leur dit, ben, c'est de même que ça va se passer. Il y a des... ben, c'est sûr que c'est toujours des...
ou c'est comme ça que ça peut
se passer. Ça peut se passer. Oui. Hein? C'est pas, on ne peut pas faire de généralité, mais pour dédramatiser, enlever un peu aussi les angoisses, les inquiétudes. Et puis, d'autre part, comme vous l'avez dit, dans la deuxième partie du guide, il y a un côté plus objectif, c'est-à-dire des informations un peu plus factuelles où là, on dit, ben voici c'est quoi les étapes de développement du langage. Mm-hmm. Voici c'est quoi la langue des signes québécoise.
Voici les aides techniques.
Mm-hmm. Les plans cochléaires, s'il manque de piles, voici comment on fait pour changer une pile. Mm-hmm. Donc, tous des éléments plus techniques.
Mm-hmm.
Mais nécessaire.
Oui, nécessaire et réuni dans un même document qui peut donner aux parents un maximum d'outils quand ils apprennent.
Très concret, je le répète, très accessible. Ouais. Je reviens au diagnostic précoce. Est-ce qu'il permet d'amenuiser les impacts sur le développement de l'enfant?
Oh, certainement, parce qu'en fait, lorsque l'enfant est dépisté rapidement, ça veut dire qu'il pourrait être appareillé rapidement. Il pourrait être implanté, on parle d'un implant cochléaire. Ça se fait, l'enfant est encore très petit, il pourra déjà avoir ces aides-là. Donc, ça va lui donner l'opportunité d'entendre tout de même. C'est sûr, on se comprend, je veux dire... Quand un enfant commence, si l'enfant n'entend pas rapidement, c'est lorsque, et qu'on entend plus longtemps, je ne sais pas, moi, vers 8 mois, 1 an, 2 ans, mais déjà, il y a toute cette étape-là de sa vie qui s'est passée, au fond, dans un certain silence, là. Et lorsqu'on fait les... il faut qu'il puisse distinguer c'est quoi les bruits qui l'entourent, de la voix de ses parents. Il faut différencier ça, par exemple, de la radio, du son de la télé, du choc de quelque chose qui tombe à terre. Là, il y a tout ça qui va l'aider beaucoup.
Dans le guide, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, touché, moi, qui relatait qu'un enfant va souvent se mettre à parler quand il a 1 an et c'est souvent suite à tout ce qu'il entend depuis un an. Donc, quand il y a un diagnostic après 3 ans, 5 ans, on peut s'imaginer à quel point l'enfant peut avoir...
Il y a du retard.
Oui, c'est ça, développer un certain retard. Oui. Donc, de là, encore une fois, l'importance de pouvoir émettre un diagnostic. Et Marie-Josée Taillefer disait ça, d'ailleurs, dans son introduction, où elle disait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose parce que notre voix ne réussissait pas à apaiser, à consoler notre enfant. Donc, ça aussi, j'imagine, ça peut être un signal.
Parce que par-delà la communication aussi, plus on dépiste de façon précoce, plus on est capable de munir le parent d'outils qui vont lui permettre de socialiser son enfant. Mm-hmm. Et donc, oui, l'implant cochléaire, très bonne démarche, mais il y a tout aussi la question de la langue des signes qui vient avec et qui permet aux parents immédiatement d'avoir accès à son enfant, de lui parler au sens abstrait, de communiquer avec lui et de lui dire des mots qu'il comprend, des phrases pour l'apaiser dans ces moments de crise et dans tout ce que le rôle de parent nécessite aussi. Dès le plus jeune âge, on socialise nos enfants, on les éduque, on les élève, on leur donne les outils pour devenir des grandes personnes.
Oui. Et c'est ce que le parent d'enfant qui vit avec un problème auditif veut également faire, transmettre cette autonomie-là, éviter l'isolement aussi. Je pense que Charles, dans tous vos travaux, c'est beaucoup aussi ce que vous mettez de l'avant. Comment on peut tenter d'éviter ça pour notre enfant?
Donc, le premier moyen, c'est de s'assurer qu'il y a tout en place pour nous, parents, pour nous permettre de communiquer, entrer en relation avec notre enfant. Et là, j'insiste, pas seulement communiquer avec lui, mais rentrer en relation avec lui. C'est-à-dire, il peut comprendre que je suis en train de dire le mot « bateau », mais il peut aussi ne pas comprendre qu'on s'en va prendre le bateau. Et donc, d'avoir à la fois tous les outils que la technologie et que le savoir qu'on a en ce moment sur les langues des signes nous permettent, à mon avis, c'est vers ça qu'il faut se diriger. Il faut encourager ces parents-là à choisir, à bien choisir, à remettre des fois en question aussi les choix qu'on leur propose, qui mettent certaines fois en opposition, par exemple, la langue des signes et l'implant cochléaire. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, de donner tous les outils aux parents.
Permettre de choisir.
Pour qu'ils puissent choisir de façon éclairée.
Oui, et ça revient souvent dans le guide de dire aux parents, c'est vous les premiers experts. Parce que, suite à un diagnostic, vous allez être entouré d'experts de toutes sortes qui vous diront plein de conseils. Ils veulent bien sûr le bien de votre enfant, mais peut-être que à un moment donné, il faut savoir départager toute cette information-là.
Parce que c'est beaucoup, si je peux me permettre, à un moment donné, lorsqu'il y a 2, 3, 4, 5 rendez-vous dans une semaine, parce qu'il faut aller voir différents spécialistes, là, à un moment donné, puis le mot-clé dans tout ça, c'est toujours stimulation de l'enfant. Mais moi, il y avait le témoignage d'une maman, justement, là-dedans, elle disait, ça n'a plus de sens, elle avait l'impression que son enfant, elle se posait la question de savoir si son enfant n'était pas trop stimulé et qu'on lui proposait de la stimulation supplémentaire. Et comme elle disait, elle a réussi à dire non. Non pour le moment, parce qu'elle trouvait que là, ça suffisait, que son enfant en avait assez pour le moment. Elle en avait assez. Et c'est dans ce sens-là que les parents, ce sont des experts. C'est eux qui vivent avec leurs enfants et qui sentent lorsque c'est assez. Bien, écoute, on va prendre une pause, là. On va diminuer un peu tout ça. On recommencera plus tard. Il faut savoir, justement, Ben, c'est ça, ne pas avoir peur, finalement, doser, de s'affirmer, ouais. de doser là-dedans, ouais. etc. Ils sont partis. C'est pas juste les spécialistes là, qui sont là, là, c'est le parent. Ben, entre guillemets, c'est un spécialiste lui aussi. Donc, ouais. il fait partie ouais. De la décision aussi.
Et en même temps, ça aussi, c'est mentionné dans le guide de ce... de s'interroger, en fait, sur ouais. c'est quoi le moment que je passe avec mon enfant, parce que, et ça, c'est bien clair, le parcours d'une famille qui vit avec un enfant qui a un problème auditif, ben, il est parsemé de beaucoup de séjours à l'hôpital, avec beaucoup de spécialismes, ouais. à un moment donné, c'est quoi le plaisir que j'ai avec mon enfant, et aussi avec la fratrie, hein, faut pas l'oublier.
Ouais. C'est bien ce que vous dites là. Parce qu'arrêtez, c'est ça. Il faut le dire aux parents, n'oubliez pas de vous amuser avec vos enfants, c'est des enfants. Alors, il faut aussi qu'ils aient du plaisir, tu sais.
Parce qu'il y a une responsabilité ouais. qu'on donne aux parents, et puis il n'y a personne qui peut dénoncer ça. Je veux dire, c'est tout dans les interventions auprès des enfants qui ont des incapacités auditives nous dit que l'engagement du parent, c'est essentiel, mais il faut quand même faire attention à ces parents-là. Ouais. Je pense qu'on le fait assez bien. Mais je crois qu'il y a quand même lieu de s'interroger sur l'engagement qu'on demande aux parents ouais. et s'assurer que ce soit bien dosé et que aussi, oui, il faut que le parent soit capable de dire non, mais aussi il faut que tout le monde alentour de ces parents-là reconnaisse les signes d'épuisement,
d'une certaine fatigue,
de fatigue, ouais. de dépression des fois, hein, parce que ça peut mener
ouais.
Ceux qui sont parents qui nous écoutent. Ils savent très bien qu'avoir un enfant de 8, 9, 10 ans, ça veut dire aller les porter au soccer, ça veut dire aller les chercher au cours de danse, ça veut dire aussi plein d'autres choses. Oui. Et si en plus, il y a 4 rendez-vous plus 3 thérapies qui s'ajoutent par semaine.
Plus l'école,
plus tout le reste, on s'entend que le parent, si on lui dit « Ah oui, il faudrait également, s'il vous plaît, le stimuler en plus avec telle technique », ben des fois, ça peut être trop.
C'est essoufflant.
Oui. Il y a aussi un segment sur l'intimidation dans le guide. Vous, Charles, qui avez travaillé justement sur tout ce qui porte à l'identité, les dynamiques communautaires dans les communautés sourdes là, de gens qui vivent avec ce handicap, est-ce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés?
Oh oui, définitivement. C'est très difficile d'aller par-delà le stigmate relié à l'incapacité intellectuelle. Les sourds, les gens qui n'entendent pas, hein, on leur prête souvent d'autres caractéristiques, on leur ouais. donne des caractéristiques, on pense qu'ils ne sont pas intelligents également. Ça, c'est le pire de tous, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Il y a aussi la difficulté d'entrer en communication avec quelqu'un qui semble avoir un défaut de langage ou qui ne parle mm-hmm. pas comme nous ou qui semble nous faire répéter ce qu'on va... Ben, moi, les témoignages que j'ai recueillis puis ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que les gens vont préférer couper la communication, même ouais. si des petits gestes tout simples pourraient permettre de savoir... tu sais, quelqu'un qui tape sur sa montre, c'est évident qu'il veut savoir l'heure, là. Mm-hmm. Donc, c'est pas compliqué à dire, c'est pas compliqué à lire 7 si je fais les mm. si je monte mes doigts, si je monte 7 doigts. Il y a tous des petits moyens, mais il y a quelque chose derrière le bris de communication. Quand la communication se fait pas, disons, de façon naturelle,
aisée,
qui fait peser sur ces gens-là un fardeau, hein, et souvent c'est eux qui doivent faire l'effort, et à un moment donné, ouais. on peut s'entendre que certains d'entre eux décident de ne plus faire cet effort-là.
Et de se retrouver entre eux.
Et de se retrouver uniquement entre
oui,
eux.
Oui, voilà. Ouais. Et il y a encore de beaux exemples dans le guide, notamment cette dame qui dit, ben, moi, au souper de famille, souvent, j'entendais pas tout ce qui se passait. À un moment donné, j'ai fait un souper de famille, j'ai invité des amis qui sont sourds, et là, c'est ma famille qui a fait...
Facile.
Oh là là, ben c'est nous, ouais. là, on ne comprend pas. Ouais. Donc, c'était un petit peu de faire vivre la réalité ouais. aux autres et comme ça, on brise
préjugés. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas, c'est pas toujours comme ça non plus. Là. On s'entend, peut-être que là, on pourrait penser que c'est toujours difficile. Oui, c'est souvent difficile, mais ça ne l'est pas toujours parce qu'il y a aussi à côté de ça, comme au fond, de tous les jeunes. Il y a plein aussi de belles histoires où il y a une belle intégration, puis les jeunes ont plein d'amis et tout ça. Là.
Et on va s'accrocher à ces belles histoires, oui. Bien sûr. Le guide, et je rappelle le titre à l'usage des parents qui s'intitule « Votre enfant a une surdité, vous n'êtes pas seul », on le retrouve où, Edith Keys?
Alors, on peut l'avoir sur le site Internet, évidemment, sur le... Donc,
akepa.org
ou celui-là de la Fondation des sourds.
Alors,
du Québec.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui, Edith Keys. Vous êtes directrice générale de l'AKEPA et Charles Gaucher. Vous êtes l'auteur principal de ce guide, également professeur à l'École de travail social de l'Université de Moncton. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Catherine Tivigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fondation Milio. Et là, entre autres, pour nous parler de ce party pyjama qui aura lieu le 12 mai du côté du Lion d'Or, au profit de la Fondation Milio. Et lorsque on lit les grands thèmes qui seront associés au texte lu ce soir-là, il y a différents mots qui ressortent. Détermination, enfance, bien sûr, courage. Et le mot autonomie qui, je pense, est vraiment, je pourrais dire, un mot qui guide beaucoup la Fondation Milio.
Effectivement, la Fondation Milio s'est donnée comme mission de permettre aux enfants avec une déficience motrice ou de langage d'améliorer leur autonomie. Puis on fait ça en soutenant la recherche en réadaptation, en finançant différents équipements spécialisés. On pourrait parler même d'une cuisine adaptée et tout ça adapté aux besoins des enfants qui sont suivis ici au centre de réadaptation Marie-Enfant.
Du CHU Sainte-Justine.
Effectivement.
Quel est le profil des jeunes que vous suivez à travers la Fondation?
Mais ici, on a différents, dans le fond, programmes pour les différentes clientèles. On parle des déficits moteurs cérébraux, on parle des maladies neuromusculaires, des troubles de développement moteur, les troubles de la communication, on peut parler du bégaiement, les amputations et autres lésions musculo-squelettiques. Donc,
c'est large,
beaucoup,
hein?
Oui, c'est très large. Alors, c'est 5000 enfants qui sont suivis annuellement au CRME, au Centre de réadaptation Marie-Enfant.
Ils ont quel âge, ces enfants-là, Catherine?
C'est de 0 à 18 ans.
Ah oui. Et est-ce que vous êtes en contact avec des professionnels de la santé? Et quel est l'impact de ces professionnels au sein de la Fondation?
Ce qu'on fait avec nos professionnels, c'est qu'on réalise des projets. J'en parle rapidement. On a un projet qui est en lien également avec notre partie pyjama littéraire, si vous voulez, qui est la lecture, un plaisir partagé. On travaille avec une docteure qui s'appelle Dr. Louise Coclas, qui est pédiatre. On travaille avec une orthophoniste et une psychologue. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer de la lecture, un plaisir partagé. On l'appelle comme ça, ce projet-là. Ça, c'est un des projets qu'on travaille avec les professionnels. On a également fait l'acquisition d'un appareil qui s'appelle le Locomat, qui est un robot pour la marche assistée. Donc, on travaille avec tous les physiothérapeutes. Donc, on travaille avec les différents corps de métier ici pour aider l'enfant à devenir de plus en plus autonome.
Et on peut se dire que pour un enfant qui vit avec un problème de langage ou d'autres déficiences, bien sûr, la lecture, c'est pas nécessairement évident pour lui. Donc, j'imagine que c'est une opportunité d'apprécier davantage la lecture avec ce projet.
Oui, effectivement. Comme je vous dis, le docteur et ses collègues ont décidé, ils ont dit, c'est un projet qu'on veut faire à l'intérieur de nos thérapies. Puis ce qu'ils ont dit, c'est la lecture, c'est une opportunité unique pour l'enfant et son parent de partager un moment privilégié l'un avec l'autre. Puis en même temps, leur donner des outils, si vous voulez, pour stimuler leur vocabulaire, les phrases, la mémoire à l'intérieur, comme je vous dis, de leur thérapie.
Est-ce que la Fondation Milio est là également pour accompagner les parents?
Oui, on a différents programmes avec, si vous voulez, ou projets qu'on fait également en collaboration avec les parents. On a un fonds répit des jardins. On a également, nous, une unité ici d'hébergement et répit qu'on fait que les enfants puissent venir ici passer quelques jours. Donc, ce fonds-là attribue, si vous voulez, une allocation de répit aux parents pour les enfants qui sont admissibles là, au CRME.
Et les profits qui seront amassés lors du party pyjama littéraire du 12 000 serviront à quoi, Catherine?
Entre autres, comme je vous expliquais tout à l'heure, notre bibliothèque ambulante qui va être mise en place, entre autres avec une entente avec une mini-biblio Fredrickson pour le prêt de livres. Mm-hmm. On va également faire un projet de l'heure des comptes. On va avoir une personne qui va venir, une spécialiste qui va nous faire l'heure des comptes avec les enfants. Puis tout ça dans le but toujours de rendre la vie des enfants plus agréable, puis en même temps bien, ludique aussi, mais qui va rendre leur vie, comme je vous dis, meilleure, avoir une petite vie meilleure pour des bons moments de lecture. Donc, on a beaucoup de projets de lecture avec le projet du pyjama party, parce que c'est un pyjama party littéraire.
Oui.
Puis écoutez, je remercie vraiment toutes les... Nos artistes, acteurs, comédiens qui font partie de qui vont interpréter, comme vous disiez tout à l'heure, les textes et chansons qui vont être inspirés de la mission de la Fondation. Mm-hmm. Donc, on a bien hâte à cet événement-là, puis en même temps, nous permettre d'amasser des fonds pour faire de beaux projets pour nos enfants.
Eh oui, on parle ici de Claudia Larochelle, Vincent Gratton, Robert Frozzi, entre autres choses. Donc, qui seront là le 12 mai au Lion d'Or, vêtus d'un pyjama, peut-être un à la main et qui liront des textes, soit certains textes qui seront inédits, d'autres peut-être plus connus, mais toujours avec des thèmes qui seront liés à la fondation que vous menez, Catherine Sivigny, au sein de la Fondation Milio. On rappelle, 12 mai, Lion d'Or. Est-ce que, de quelle façon on peut se procurer les billets?
Bien, à lavitrine.com, il y a les billets, mais également à la Fondation, donc infofondationmilio.com. Donc, vous pouvez procurer les billets. Ça fera plaisir de vous accueillir en grand nombre, puis c'est pour une bonne cause.
Et oui, puis
pour nos enfants.
Vous serez présente, j'imagine.
Effectivement.
Les parents avec, des enfants aussi?
J'ai quelques parents avec des enfants qui sont suivis ici, qui vont venir, qui approchent 18 ans. Donc, on ne va pas se permettre de les accueillir pour qu'ils viennent rencontrer les gens en même temps.
Fondation Trait d'Union Milio.org. Catherine Sivigny, vous en êtes la directrice générale. Merci beaucoup et bon party pyjama le 12 mai.
Un grand merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Mathieu Tessier à la mise en onde, deux plutôt qu'un aujourd'hui encore. Je suis bien choyée. Marianne Paquette au micro, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Il y a différents moyens de nous joindre également. 1-800-361-0635, poste 220. Toujours un plaisir de vous entendre et on est également présent sur Twitter et Facebook. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous dès demain 14h. Bye bye.